Il faut sans doute beaucoup de passion pour enseigner le latin et le grec. On verra dans un instant avec François Martin, professeur, la manière dont il transmet aux élèves les langues anciennes en ZEP à Noisy. Bonjour monsieur le professeur.
Bonjour.
J'aime bien vous appeler comme ça. Et d'abord votre reportage, Jean-Baptiste Urbain, bonjour.
Bonjour Vincent.
Dans une classe de 3e d'un collège parisien du 12e arrondissement, c'était hier, je sais que vous étiez ému de retourner à l'école, et vous avez assisté à un cours de grec ancien, j'imagine que c'est l'un des tout premiers cours de grec de l'année.
Oui, je vous propose d'entrer au collège Georges Courteline ici. Il y a environ 60 élèves inscrits en latin en 5e, et à partir de la 3e, les collégiens peuvent choisir également, ou même en plus, le grec ancien. Sauf que ne dites plus Vincent latin ni grec ancien. Et oui, le nom même de la discipline a changé. Comment dit-on ? Réponse et explication de Jean-Marie Bourguignon. Il est prof de lettres classiques au collège Courteline.
L'enseignement s'appelle maintenant « Langues et cultures de l'Antiquité ». Donc on fait toujours de la traduction, on acquiert toujours un certain nombre de bases linguistiques, mais enfin, c'est une partie de l'enseignement. Maintenant, on s'intéresse à des grandes questions transversales, on essaie de faire des liens entre cette culture et le monde moderne. Les choses ont évolué de façon, je pense, positive, en particulier, comme on est moins focalisé sur l'acquisition des bases linguistiques du latin ou du grec. Eh bien, on peut lire des textes traduits, on lit beaucoup plus de textes puisqu'on s'autorise à les lire traduits.
Donc on entend la cloche. C'est l'heure d'entrer en classe, Jean-Baptiste.
Oui, il est 13h, il faut souvent sacrifier une heure de pause déjeuner pour suivre les cours de langues anciennes. Et je vous propose d'entrer dans la classe de Monsieur Bourguignon qu'on vient d'entendre, qui m'a gentiment accueilli dans son cours. Alors, outre le fait qu'à ma grande surprise, il y a désormais un ordinateur sur la table du prof et que ce qu'il tape apparaît au tableau, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet, c'est la deuxième heure de cours de grec ancien. Et au tableau, précisément, pas d'alphabet grec, non. L'enseignant a choisi de parler défense de la culture grecque au 19e siècle. C'est le mouvement Philhellène au cours duquel des intellectuels ont pris les armes pour libérer la Grèce de la culture ottomane.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que c'est cette culture qu'ils sont allés défendre ?
La question par laquelle j'ai commencé cette année, c'est pourquoi partir mourir en Grèce ? Et là, les élèves y réfléchissent, donc on va lire quelques textes. Et ils ont fait évidemment des liens avec l'actualité. Il y a des gens qui ont pris des armes pour aller défendre la République espagnole, les brigades internationales. Et puis actuellement, il y a des gens qui prennent des armes dans un tout autre contexte pour aller se battre pour des causes, pour l'islam radical, le djihad. Donc on essaie de voir un petit peu dans quelle mesure les choses sont comparables et dans quelle mesure elles sont différentes et quelles sont les valeurs qui ont poussé ces lettrés à aller se battre en Grèce.
On est dans l'actualité, on est dans le rapport à la culture ancienne et dans une forme de philosophie aussi, Jean-Baptiste. Pourquoi des collégiens choisissent-ils aujourd'hui de s'inscrire en cours de grec ancien ?
Je leur ai posé la question à la sortie du cours. On pourrait imaginer qu'il y a les parents derrière qui poussent des enfants un brin récalcitrant. Bah pas du tout. J'ai rencontré des élèves enthousiastes qui parlent presque comme des livres et comme les filles sont beaucoup plus timides. Voici trois garçons par ordre d'apparition au micro : Benjamin, Alan et Sibiri.
Si j'ai choisi de faire grec, c'est parce que j'adore la mythologie romaine et grecque. J'ai fait du latin les 2 années avant et je voulais arrêter pour faire du grec. Et aussi, je m'intéresse à la langue parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant d'apprendre de nouvelles langues, surtout avec un nouvel alphabet.
La culture grecque, c'est le berceau un peu de la culture occidentale. C'est un peu la première démocratie qu'il y a eu. Il y a plein de choses en fait. Et puis l'alphabet, c'est assez marrant d'apprendre des nouveaux signes, d'apprendre...
Je pense que ça sert parce qu'il y a des mots compliqués des fois dans la langue française et on peut savoir l'origine du mot. Et aussi, moi, c'est plutôt ma mère qui me l'a conseillé parce que je ne faisais pas latin et là, au moins, ça peut me servir plus tard.
C'est vrai qu'il parle bien comme des livres, comme vous disiez, Jean-Baptiste Urbain. Est-ce que vous ne seriez pas entré dans une très bonne classe parce que c'est une classe d'élèves qui ont choisi le grec ?
C'est vrai que dans ce cours-là, les élèves participent, sont à l'aise dans l'expression orale. Mais si vous croyez qu'en inscrivant votre collégien en latin ou en grec, il sera dans une bonne classe, vous vous trompez, Vincent. Mise au point de Madame Linard, la principale du collège Courteline.
On fait des classes de toute façon absolument hétérogènes. Et dans toutes les classes, à partir de la 5e, il y a des latinistes dans toutes les classes. Mais pas une classe, il n'y a pas une classe d'hélénistes et une ou deux classes de latinistes. On fait des classes hétérogènes.
Voilà, le temps du latin ou du grec pour être dans la bonne classe est révolu. Celui de l'apprentissage ad nauseam des déclinaisons aussi.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, 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 rosa.
Soin, soin. Bonjour François Martin.
Bonjour.
Vous enseignez dans un collège de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, en ZEP. Vous êtes vice-président de la CNARELA, Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes. Rosa, Rosa, Rosam. On a tous appris ça, tous ceux qui ont plus de 40 ans. C'est terminé, on n'enseigne plus les déclinaisons comme ça, comme une petite chanson, comme une comptine.
Alors je crois qu'on est passé complètement à autre chose. On est dans une nouvelle époque et les langues anciennes se sont adaptées. Je crois que je suis très heureux d'avoir entendu le reportage avant parce que quand on parle langues anciennes, on parle très souvent du latin, mais pas beaucoup du grec. Et le grec est toujours enseigné en France. Et je suis heureux aussi qu'on ait donné la parole aux élèves parce que c'est eux qui font vivre ces disciplines actuellement.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sentez chez eux ?
On sent une véritable envie. Une véritable envie d'apprendre ces langues anciennes.
Comment vous l'expliquez cette envie-là ? Parce qu'elle n'est pas très médiatisée.
Elle n'est pas très médiatisée parce qu'il y a une image, comme vous l'avez dit, avec cette chanson qui est ancienne encore.
Qui est du XXe siècle.
Oui. Mmh. Mais il y a...
une réalité qui a changé.
Il y a besoin d'un retour à des choses simples. Les élèves ont besoin de prendre du temps, je pense. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très très vite. Et je crois qu'en langues anciennes, on prend le temps aussi d'apprendre, on prend le temps de regarder, on prend le temps de réfléchir.
Ce qui m'a frappé dans le reportage de Jean-Baptiste, c'est que vous vous intéressez, vous, professeurs de langues anciennes, à l'actualité et que vous faites des ponts, visiblement, entre ce qui se passe et ce qui s'est passé.
Oui, c'est tout l'intérêt aussi des langues anciennes, d'aller chercher dans ces textes un regard nouveau pour l'époque actuelle dans tous les programmes aujourd'hui, que ce soit au collège, particulièrement en troisième, je pense au théâtre, en objet d'étude le théâtre du 20e. On étudie la réappropriation des mythes dans le théâtre du 20e. Au lycée aussi, dans le programme de seconde, on s'interroge sur le théâtre du 17e, cette fois-ci le théâtre classique. et voir son évolution depuis le théâtre grec.
Mais ça, c'est pas enseigner une langue, c'est enseigner une culture.
Ah, c'est enseigner une culture, mais on ne néglige pas pour autant la langue. Quand on dit c'est fini les déclinaisons, c'est pas vrai, ça a changé. Le mode d'apprentissage de ces langues est différent de celui qui était pratiqué il y a fort longtemps, je pense, hein, quand même. Mais on attache toujours une importance à l'étude de la langue. Comme l'a dit Jean-Baptiste Urbain, elles sont appelées aujourd'hui les langues et cultures de l'Antiquité. Il y a bien langue et culture. Donc il y a une part d'étude de la langue, puisque ce qui est intéressant, c'est aussi que les élèves puissent accéder aux textes directement. C'est ce qui nous intéresse, le travail sur les textes authentiques.
Jean-Baptiste Urbain.
Mais du coup, le CAPES a changé également, et ça a fait grincer des dents.
Alors qu'est-ce qui a changé? Dites-nous.
Le CAPES a changé, oui, ça a fait grincer des dents.
Un CAPES de lettres classiques, ça existe toujours?
Alors, ça existe toujours. Il faut arrêter de dire que ça n'existe pas pour essayer de décourager tout le monde. Il existe aujourd'hui un CAPES de lettres avec une option moderne et une option classique. Donc, il y a toujours des professeurs de lettres modernes qui sont formés et toujours des professeurs de lettres classiques, dont la spécificité, hein, je le rappelle, est d'enseigner à la fois le français, le latin et le grec. Hein. Nous sommes professeurs de français, latin et grec. Hein. Nous sommes trivalents.
Est-ce que beaucoup d'étudiants choisissent cette formation classique ?
Alors, il n'y a pas énormément d'étudiants, mais il faut dire qu'ils ont été fortement découragés avant. Hein,
par qui, par quoi ?
Sans doute en majeure partie par l'institution, quand on met les heures de latin de 5h à 6h.
Ou à l'heure du déjeuner.
Voilà, ou à l'heure du déjeuner, comme il en a été question dans le reportage. Ça peut décourager des élèves au bout de 3 ans. Donc, au lycée, déjà, on peut constater qu'il y a moins d'élèves inscrits. Et puis, il y a aussi le phénomène de la multiplication des options au lycée. Les langues vivantes qui prennent beaucoup de place avec les sections européennes aujourd'hui, les sections internationales aussi qui demandent beaucoup d'heures d'études aux élèves. Donc, étudier une option supplémentaire, c'est pas toujours évident. Donc après, quand on sort du secondaire pour aller dans le supérieur, il y a encore des étudiants qui sont volontaires aujourd'hui, mais c'est plus difficile au niveau des concours. Mais c'est un problème général chez les professeurs de mathématiques et chez les professeurs de lettres modernes aussi. On a de moins en moins de présents aux concours. Malheureusement, ça fait les titres des journaux régulièrement.
Dans votre association de défense des langues anciennes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous dites en ce moment ?
Alors, dans notre association, hein, c'est un petit peu particulier. Notre association est nationale. Elle regroupe 28 associations régionales qui sont présentes dans chaque académie pour soutenir et défendre les langues anciennes.
Il faut les soutenir, il faut les défendre.
Il faut les défendre actuellement, plus que jamais. Il y avait déjà eu des appels par le passé. Hein. Vous vous souvenez peut-être d'un appel de Jacqueline de Romilly dans le Monde. Il faut les défendre encore plus aujourd'hui parce qu'elles sont menacées. Donc c'est le travail de la CNARELA quand on se rend au ministère, auprès du cabinet, pour faire voir aussi qu'il y a des élèves sur le terrain, il y a une vraie demande sociale. Hein. Plus de 500 000 élèves étudient le latin actuellement et plus de 30 000 élèves étudient le grec. Il faut le faire savoir.
Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord, j'allais dire, vous plaindre? Non, mais discuter avec vos chefs d'établissement, parce que chaque situation dépend de chaque chef d'établissement et de chaque volonté.
Oui, mais notre premier intérêt, c'est de défendre les langues anciennes, mais de faire une promotion, une véritable promotion, c'est-à-dire auprès des élèves, les professeurs qui m'écouteront le savent très bien. Il y a des démarches qui sont mises en place dès la sixième pour sensibiliser les élèves au latin et puis après en quatrième pour sensibiliser les élèves au grec. Mais c'est tout un travail aussi à la fin du collège de les persuader de pouvoir continuer au lycée. Alors il y en a pour qui c'est plutôt naturel, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une continuité. Et puis d'autres qui doutent face à la multiplicité des options qui sont offertes au lycée, surtout depuis la réforme du lycée avec les enseignements d'exploration.
Sachez en tout cas qu'on a reçu un très grand nombre de commentaires d'auditeurs sur le site francemusique.fr et tous nous disent ne dites pas que les langues anciennes sont mortes. On dit qu'elles meurent depuis des années et pourtant elles sont toujours vivantes, mais d'une façon très variable selon les lieux et les volontés. Un autre auditeur, Jean-Christophe, nous dit elles ne meurent pas dans le lycée où j'enseigne. Les classes sont bien fournies au détriment des options artistiques inexistantes. On reparlera de ce débat intéressant. J'aurais bien aimé un prof de latin comme vous. Moi, ma prof me faisait apprendre par cœur Agricola in agris circum ulam ambulat eratuses namne quae fidius. De quoi servus arat. Juliette parle mieux latin que moi quand elle chante Baudelaire.
Estus artis implicata, o femina delicata, per quam soluntur peccata. Sicut beneficum lei.
habíamos culla de te, coe imbuta es magnete, cum viciorum tempestas, turbavat omnes semitrans, apparuisti deitas, apparuisti deitas. Velut stella salutaris in naufragis amaris suspendam cor tuis aris piscina plena virtutis fons eterne juventutis labris vocem redemutis Purcum cremasti, quod rudius exequasti, quod debile confirmasti, infame mea taberna, in noctem mea lucena, rectem me semper guberna, rectem me semper guberna. Calumbus mica, o castitatis lorica, aqua tinta serafica. Patera gemis corusca, panis alsus molisesca, divinum winum Francisca, divinum winum Francisca. Patera gemis corusca, Salsus molisesca, divinum winum Francisca, divinum winum Francisca.
Francisca Emei Laudes, je ne suis pas certain de la prononciation, poème de Baudelaire dédicacé à une modiste, érudite et dévote que Juliette a mise en musique.